Mais dis-nous, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qu'est-ce que c'est? C'est écrit radio?
Radio Bartas?
Radio Bartas. Oh, vas-y, c'est quoi? C'est un micro.
Oh, c'est le micro de la radio Bartas.
Oh, c'est radio d'un micro.
Oh, on pique le micro.
Vas-y, on pique le micro.
Ah oui.
On se cache dans sa buisson avec le micro.
On s'est caché dans une buisson. Et on a trouvé le micro sur le chemin de la mine.
Le chemin de la mine. C'est le chemin de la mine. La mine où on a vu une lecture ce matin.
Ah, oh, c'était trop bien. C'était le bon grain de la bibliothèque bavarde.
Ah oui, c'était la bibliothèque bavarde. Je me souviens, c'était des questions écologiques.
Ah, c'était super. Et d'ailleurs, regarde, on les a entendus.
Oui, on les a entendus. Et puis je me souviens même, il y avait une couronne avec des bonbons dessus. Et toi, tu voulais manger tous les bonbons de la couronne avant.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, Christophe Pichard, j'ai mis en lecture Le Bon Grain de François Dumont. Et j'ai lu aussi, c'est un texte, le synopsis, c'est une reine qui s'intéresse beaucoup à son potager. Et les gens manifestent et elle s'est dit que c'était une bonne idée pour sauver la planète, d'arrêter tout. Mais les gens ont faim, se révoltent et s'ensuit plusieurs aventures avec la reine, le roi, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Écologie, divers opposants et autres.
Eh bien, moi, c'est Maïna Le Dantec. J'étais assistante à la mise en lecture de Christophe Pichard et comédienne aussi et lectrice du coup sur le projet. Et on fait tous partie de la Bibliothèque Bavarde, qui est une association à Montpellier. Qui promeut la lecture contemporaine, étrangère, ancienne, de vraiment tous les horizons. C'est vraiment, on a créé cette association dans un but de partage et de rencontre entre comédiens, comédiennes, dramaturges, autrices, auteurs de la région.
Et moi, je m'appelle Jules Tricard et je suis comédien. Et là, j'ai joué la reine dans cette mise en lecture qu'on a fait tout à l'heure du Bon Grain. Voilà. Puis on est tous de Montpellier, là, globalement, et on travaille assez régulièrement ensemble, pas toute l'équipe. On fait des lectures à plus petit format. Mais là, effectivement, on est arrivé avec une grande armée. On est 8 comédiens, comédiennes sur scène pour cette lecture-là.
J'ai un truc qui m'intrigue beaucoup en ce moment, c'est l'importance de la lecture. Ça représente quoi pour vous de lire et de partager la lecture aux gens?
C'est vrai que c'est quelque chose qui se perd un peu, qui est un peu sous-estimé. Souvent on pense que c'est vraiment quelqu'un qui va avoir le nez sur le livre, alors que pas du tout en fait. Nous, notre travail, c'est aussi énormément d'interpréter et de mettre en espace, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément rester debout, droit, devant un pupitre. On va aussi, comme ce matin, on n'avait qu'un seul pupitre, par exemple, pour 8, et on a vraiment bougé dans l'espace. Il y a eu tout un travail du corps aussi, et de la voix qui était fait. Donc ça change vraiment, c'est entre la lecture et le spectacle.
Et ça nous permet aussi, la lecture, de partager beaucoup de textes, beaucoup de nouvelles choses, parce que c'est des plus petites machines à mettre en place pour les répétitions. Parce que quand on monte un spectacle, donc on a ce temps-là de lecture, puis après on doit penser à la scénographie, la mise en scène, tout ça, apprendre le texte. C'est des temps beaucoup plus longs. Là, ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, c'est qu'on a pu le monter en 2 semaines. 2 semaines, c'est un temps très raisonnable pour des personnes qui ont plein d'autres choses à faire en même temps. Et ça nous permet du coup de faire découvrir ces textes, nous-mêmes d'apprendre un peu plus à jouer ensemble, à trouver notre langue commune, et pourquoi pas sur certains textes, du coup pouvoir lancer une production plus grande, etc. Mais du coup, voilà, ça permet effectivement de s'adapter. Là, le festival Vialas à la page nous a partagé du coup le thème aussi du festival. Donc nous, on a travaillé aussi un petit peu en fonction. Ça permet une plus grande flexibilité et adaptabilité, quoi. C'est ça aussi que je trouve agréable dans le partage de la lecture. Et comme tu disais aussi, Maïna, de le remettre un petit peu au goût du jour, parce que ça peut avoir quelque chose d'un peu austère à première vue, de se dire mise en lecture, quand on connaît pas, c'est pas forcément, mais je comprends, en tout cas je peux comprendre que quand on connaisse pas et qu'on entend parler de lecture, on peut se dire ah là là, quelqu'un derrière son texte qui va avoir le nez planté dedans, Voilà, nous, notre travail, c'est de donner de la vie à tout ça et de réussir à retranscrire et les émotions et le rire et... qui fait partie des émotions, tu me diras, mais voilà. Mais, enfin, réussir à retranscrire toutes les forces du texte avec nous, notre dynamisme, le dynamisme qu'on a insufflé dedans. Mais on a vu d'autres lectures hier. Pareil, ils ont eu un autre format, une autre façon de l'approcher où ils étaient voilà, derrière le pupitre, mais avec aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de relief. Donc voilà, il y a plein de façon de le faire maintenant, et c'est vrai que ça revient un petit peu en avant, en tout cas j'ai l'impression, peut-être que c'est que je m'y intéresse plus, mais...
Parce que c'est pratique, je
parce
pense.
Parce que c'est pratique, ouais,
c'est très pratique, aussi. C'est très très pratique la lecture, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a un contexte économique où il y a de moins en moins de budget pour la création théâtrale, en tout cas pas pour les petites compagnies, et la lecture c'est un bel entre-deux.
Oui. Un bel endroit aussi pour rencontrer son public et voir aussi un petit peu si le texte plaît, si nous on se plaît dedans, et ça, enfin, ça fait des micro-paris constants comme ça. Mais c'est bien, c'est chouette, je trouve.
Ça peut être une première étape de travail, par exemple.
Dino, Dino,
quoi?
À 15h, tu te souviens de ce qu'on a vu à 15h? 15h, c'est 3h de l'après-midi, Dino.
À 3h de l'après-midi? Ah si, je me souviens.
Mais
on
oui.
était au port de la rivière.
Mais oui, c'était sur la plagette, c'était beau.
Oh oui, c'était vraiment beau. C'était, ça s'appelait Conte à se rassasier.
Et oui, c'était Ode au Conte, et il y avait plein d'histoires sur les fruits, les légumes, c'était trop sympa.
Ah oui, puis je me souviens, on a bien rigolé, on s'est beaucoup, beaucoup émouvu.
On s'est mouvu. C'était super top sympa.
Ah oui.
Je m'appelle Aude. On me connaît sous l'appellation Aude au Conte. Et aujourd'hui, dans le cadre de Vialas à la page, j'ai lu des histoires, des contes à se rassasier. Des contes qui ne parlaient en fait que de ce qu'on mange. Voilà, des contes qui nous viennent de notre patrimoine, du patrimoine d'autres pays, des contes populaires.
C'est quoi à tes yeux l'importance de la lecture, l'importance du livre, l'importance de partager des contes? Est-ce que ça a toujours la même importance qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans?
Même peut-être encore plus important aujourd'hui quand on voit où va le monde. En fait, qui c'est qui disait « la connaissance c'est la liberté » et la connaissance elle peut... passé, bon, aujourd'hui on a des médias nouveaux, tout ça, mais elle passe avant tout par la lecture, par l'instruction, quoi. Voilà. Il y a une autre réflexion qu'on me fait assez souvent d'ailleurs, surtout les grands-parents qui viennent me voir quand je compte et qui me disent c'était très bien, on a beaucoup aimé, mais le petit, je suis pas sûre qu'il ait compris tous les mots que vous avez dit. Et j'aurais tort que toujours que je me refuse, moi, à simplifier mon langage. On perd énormément de notre langue, c'est une richesse, c'est un patrimoine. On a énormément de synonymes qui, malgré tout, ont des petites significations sensiblement différentes. Et je dis non, je me refuse à nettoyer ça, à rabaisser ça. De toute façon, les enfants ont compris l'histoire et dans le contexte, ils ont compris le mot. Et un jour, plus tard, ce mot va à nouveau résonner à leurs oreilles et ça fera tilt dans leur cerveau.
Il y aurait un besoin aujourd'hui d'adapter des contes qui ont 50, 100 ans? Est-ce qu'ils sont encore d'actualité? Est-ce que tous les contes sont encore d'actualité? Ou il y en a certains, quand tu tombes dessus, tu dis oui, non, lui, non, pas aujourd'hui, plus aujourd'hui?
Non, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, les contes, pour la plupart d'entre eux, hein, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, bon, aujourd'hui, on était peut-être un peu ciblés sur des contes un peu du pourquoi les choses sont comme elles sont, donc c'est intemporel, de toute façon. Mais après, même dans les contes, on trouve toujours une philosophie, à plusieurs niveaux d'ailleurs, philosophie qui s'adresse aux enfants, mais dans le même conte, on peut trouver une philosophie qui s'adresse aux adultes. Et cette philosophie, elle ne change pas. C'est le fondement même de notre humanité, de ce qui devrait être notre humanité, avoir un certain sens du respect, de la confiance, du savoir-vivre, du savoir-être. Et tout ça, les contes, encore aujourd'hui, même s'ils sont millénaires, hein, il y a certains contes, ils sont plus que centenaires, transportent, voyagent toujours avec ces philosophies. Donc oui, ils sont absolument purement d'actualité, et beaucoup de gens le ressentent d'ailleurs.
Et alors, tu sais pas qui c'est qui a organisé les lectures, mon Dino?
On va faire une petite dédicace.
Oh oui, petite dédicace.
Je suis sûr qu'elle va pas du tout aimer, mais qu'elle va beaucoup aimer.
Oui. Oui, madame,
madame la présidente de l'association Vivra Vialas.
Oui, c'est Vivra Vialas, l'association qui organise tout ça, tout ça, tout ça.
Et franchement, c'est génial comme association. Elle existe depuis 1998.
Ah oui, c'est vrai?
C'est ça. Et là, c'est la 4e édition de Vialas à la page.
On a de la chance. Et nous, c'est la 2e fois qu'on est là. On a de la chance, on a
c'est
de la
ça.
Chance.
C'est ça. Et cette année, il y a une thématique. Et tu te souviens du nom de la thématique?
Oui, je me souviens. C'est « Alors, on va déguster !»
Alors,
point d'exclamation, point d'interrogation.
Alors, on va déguster, point d'interrogation, point d'exclamation.
Oui, c'était super. Et donc, du coup, Vivra Vialas, ils ont organisé tout ça. Et il y a la présidente Mathilde qui est très importante. Il y a Dominique qui a organisé plein de choses. Et après, il y a tout le reste de l'association, les bénévoles de Vivra Vialas, les tricoteuses qui ont fait tout le manger, toute la nourriture pour tout le monde.
Et puis, il y a le trésorier aussi, parce que sans trésorier, dans une association, bah, ça ne tient pas la route. Hein.
Le trésorier, il est super aussi.
C'est incroyable. Et puis, ben mine de rien, aussi, il y a des gens, des subventionneurs qui ont donné du pognon, de l'argent pour ce festival. Parce que, ben, heureusement qu'il y a des subventionneurs, parce que la culture, ça coûte de l'argent.
Oui.
Et puis, ça nous permet de vivre tous ensemble et ça fait du bien de vivre
oui,
tous ensemble.
Et d'être heureux. Et ça, c'est heureux. Bien. Et oui, parce qu'il y a la ville qui a aidé, il y a le département qui a aidé, il y a les éditions spéciales
Playback qui ont aidé. La région Occitanie, le ministère de la Culture, Crédit Mutuel, Playback, CCSS.
Enfin, c'est super,
c'est fantastique, merci les subventionneurs.
On vous aime et puis on aime beaucoup l'association Vivra Vialas.
Bisous Vivra Vialas.
Bisous.
Donc moi je suis Dominique, je suis... un des fondateurs de créateurs de ce festival. Voilà, donc maintenant je suis un membre très actif sur le. Un membre de Vivra Vialas, très actif sur le festival. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, étant donné que je fais des lectures depuis plusieurs années et que Vialas adore la lecture. Donc on est à notre 4e festival. Là, on sort juste à l'instant d'une lecture dans un chouette endroit où il y avait à peu près 80 ou 90 spectateurs. C'est quelque chose sur Vialas qui marche vraiment bien, quoi, les lectures.
Ben justement, en parlant de lecture, c'est pas si commun que ça, un festival de lecture, on n'en trouve pas partout, dans tous les coins de rue, dans toutes les villes. Qu'est-ce qui fait que c'est si important quand même que ça existe et qu'on en trouve par-ci par-là?
Alors, la lecture a une mauvaise image à l'origine. Hein, on voit très bien le vieux là, quand on regardait la télévision avec sa pipe, assis dans un super fauteuil confortable et qui nous racontait des trucs, mais bon, qui nous endormissait au bout de 2 secondes. La lecture est en train d'être dépoussiérée par plein de troupes. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à... des professionnels hein, du théâtre qui se mettent à faire des lectures publiques, théâtralisé, donc avec vraiment une dynamique assez importante. Et voilà, ça prend de plus en plus. On a souvent, donc là, ce matin, on avait une troupe avec 8 jeunes, donc des jeunes de 25-30 ans, qui sont donc des gens du théâtre, et qui ont vraiment axé tout sur la lecture. Ça se fait de plus en plus et ouais, nous on est très ravis de pouvoir participer à cet engouement-là qui va, j'espère, continuer. Ouais.
Parle-moi un peu du festival en soi, qu'est-ce qu'il habille, qu'est-ce qu'on y retrouve? J'ai cru entendre parler d'un concours aussi.
Alors le festival il a 4 ans et voilà, donc il y a donc des lectures faites par des troupes professionnelles ou pas entièrement professionnelles. Il y a des ateliers, donc cette année on a un atelier qui s'appelle les machines de Sophie où les gens vont taper sur des machines à écrire qui sont complètement trafiquées. Demain on a un atelier pour les enfants qui est un atelier de livres à dévorer, donc les enfants vont construire un livre et pouvoir le manger juste après. Avec du Nutella, etc. Ça va être super. On accueille aussi un festival, enfin dans le festival on accueille le concours de nouvelles François Petit qui existe à Vialas depuis 7 ans. Donc on inclut le festival avec le festival eux-mêmes hein, dans la préparation, dans le festival où on a la remise des prix et la lecture des nouvelles gagnantes. Toujours une lecture de la nouvelle junior et une lecture de la nouvelle adulte.
Ben merci beaucoup.
Je t'en prie et à bientôt.
Ah, Gina, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le spectacle qui s'appelait Va au vin.
Ah oui.
Ça parlait de vin.
Ça parlait de vin. Et alors on sait que t'aimes bien ça, hein, picoler le vin, hein, Gina.
Ah oui, c'était l'Appart Théâtre qui le faisait. Il y avait des textes de Rabelais, de Baudelaire, de Colette, de Desproges, Neruda, Zelteil, Vian, Brassens.
Mais oui, il y avait Brassens. Moi j'adore Brassens. Il y avait Brassens. J'aimais trop Brassens. Alors je suis contente qu'il y avait Brassens.
Et puis il y avait un quiz. Sur le vin aussi.
Il y avait un quiz et c'était super sympa. Et c'était dans la petite cour des tricoteuses là. On était à l'ombre, il faisait beau. Oui. C'était trop trop chouette.
C'était trop trop bien. Et puis moi, ça m'a donné soif de boire du vin.
Et oui, et en plus, ça tombait bien parce que du coup, après, on a pu aller sur la place là. Et sur la place, il y avait la buvette qui était ouverte. Et même que nous, on est venus et qu'on a pris les théières pleines de mots des gens et qu'on a fait une grande criée.
Oui, c'était fantastique. Mais là, je me dis que si on retrouve le micro de la radio, on doit dire attention pour la santé, l'abus d'alcool est dangereux, t'as compris, Gina?
Ah oui, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, offre soumise à condition.
Voilà.
Eh bien, moi je suis Marilyn Chaussin-Berger, je suis comédienne et metteuse en scène de la compagnie L'Appart Théâtre. Ce spectacle Va au vin, nous l'avons créé pour un vignoble bordelais en 2014. Et depuis sa naissance, en fait, il voyage dans le territoire de la France, chez des vignerons, dans des bars à vin, dans des restaurants, dans des festivals comme celui de Vialas.
Et moi, je suis Yves Flanc, je suis comédien et cofondateur de la compagnie L'Appart Théâtre avec Marilyn. Et donc, L'Appart Théâtre, c'est une compagnie qu'on a créée il y a maintenant une douzaine d'années et qui s'est donné comme objectif de faire du théâtre intime au plus proche des habitants. Donc c'est pour ça qu'on joue très fréquemment chez l'habitant, mais aussi avec des petites jauges, que ce soit dans les lycées, les collèges, les théâtres, les lieux atypiques, la rue, les cours, etc. Voilà.
Reprendre autant de textes, c'est-à-dire connaître beaucoup de textes et du coup beaucoup aimer la lecture, c'est quoi votre rapport à la lecture dans la vie de tous les jours?
Ah oui, moi, on est aussi écrivain et écrivaine. En dehors d'être comédien et comédienne. Et comme on le dit souvent, les écrivains sont des grands lecteurs. C'est-à-dire que pour écrire, il faut avoir lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, moi, en tout cas, j'ai un rapport très, très proche à la lecture. Tous les jours, je lis beaucoup de choses quand j'ai le temps, quand je prends le temps de le faire. Et la lecture, c'est aussi un art très particulier qui est différent de celui du théâtre, c'est-à-dire du théâtre sans support, parce que il fait moins appel à la mémoire, mais il doit faire plus appel à l'attention du public, puisqu'on a un support, on doit jouer à la fois avec le public et avec le support, donc parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile.
Et aujourd'hui, à une époque où on lit de moins en moins, où les gens en général lisent de moins en moins, est-ce que la lecture est d'autant plus importante?
Je pense que oui, et surtout dès le plus jeune âge. D'ailleurs, dans les écoles maintenant, je crois qu'il y a le quart d'heure, je ne sais pas comment ça s'appelle, le quart d'heure de lecture qui initie les tout petits à soit la poésie, soit la littérature de jeunesse. Et c'est très important parce que moi, je pense que c'est un gage d'émancipation, le fait de lire et d'avoir un imaginaire qui rencontre les imaginaires d'autres gens qui soit vivent dans le même pays que nous, soit vivent ailleurs, dans un autre univers, et cet autre univers est communiqué aux enfants en particulier s'ils se plongent dans la lecture. Et si les enfants ont lu dans leur jeune âge, à mon avis, ils deviennent des lecteurs et des lectrices quand ils sont adultes.
Moi, je pense qu'il y a une période où, en fait, ils perdent la lecture. Mais déjà, mais tout petit jusqu'à, on va dire, l'adolescence, moi, je vois les enfants lire. Je vois les enfants lire avec leurs parents. Je vois les enfants lire dans des lieux un peu insolites, ou à la plage, ou à la campagne, etc. C'est après, à l'adolescence, où là, ça se perd. Mais je pense qu'après, ça revient parce que, ben, justement, il y aura eu une écoute de lecture comme ceci. Il y aura eu un professeur qui va leur lire un texte et puis qui tout d'un coup, oui c'est ça, à travers ça je vois ça et ils vont se remettre à lire. Donc je trouve que c'est positif.
Qu'est-ce qui pourrait être fait, je ne sais pas, dans un festival de lecture d'après vous pour plus intéresser, mobiliser des gens ?
Peut-être faut-il éveiller leur curiosité en leur parlant de l'auteur ou de l'autrice du texte qu'on va lire. Et que parfois, ce sont des lectures qui ne sont pas simplement à la table, mais comme aujourd'hui, scénographiées. C'est-à-dire qu'il faut mettre du mouvement, il faut mettre du corps, il faut mettre des objets, des accessoires. Et donc, leur indiquer que ça n'est pas simplement un exercice scolaire, quoi, livresque à la table.
Voilà, c'est rendre vivant une lecture.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Alors moi j'aime beaucoup le concept de la nourriture avialas parce que c'est la première fois où je vois du chili con sin carne.
Ça veut dire que c'est à la fois avec et sans viande, c'est du air chili.
Du air chili, j'ai pas compris là Gina, hein. J'ai pas du tout compris ton histoire de air chili. Hein.
Bah, c'est pas grave Dino. Moi je me suis comprise et ça c'est le plus important dans la vie.
Oui parce que tout à l'heure il y a eu Confucius qui a parlé dans notre criée, c'était connais-toi toi-même.
Ah oui c'est ça, connais-toi toi-même, c'était bien ça. Et même qu'après le chili, là, ce soir, ça va déboîter, hein, parce que ce soir, là, on les attend, elles sont pas encore là, mais c'est les trash croûtes.
Ah oui, ça c'est fantastique, parce qu'elles sont à la fois trash,
elles sont à la fois croûtes,
et puis moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait c'est des tubes qui sont d'habitude chantés en anglais, et moi je comprends rien en anglais, donc ça m'énerve de rien comprendre en anglais.
Bah,
et,
oui.
Et alors là, du coup, eh ben, elles ont une idée de génie, parce que qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh ben elles ont traduit en français.
Et oui, elles ont fait des traditions super rigolotes. Alors du coup, bah, on se régale et en plus, elles ont plein de paillettes partout et des déguisements de licorne. Et ça va être trop, trop bien. Et en plus, elles viennent de Toulouse et Toulouse, c'est trop beau. Et elles viennent jouer à Vialas et Vialas, c'est trop beau. Donc c'est trop bien.
Bah oui, et comme ça, on va danser sur Il pleut des hommes.
Ah mais ça va être trop bien. Et en plus, on aura mangé plein de chili, alors va y avoir de l'ambiance.
Ah, j'espère qu'on va pas faire trop de prout pendant qu'on danse, hein, Dina.
Oui, bah, ça nous fera peut-être décoller dans la musique, hein.
Alors moi c'est Laroussi, mon nom de scène, de trash croûte disons, et je fais du chant et du guitare aussi, donc c'est du clavier qui se tient comme une guitare.
Alors moi c'est Kelem et je chante, je joue du ukulélé et je joue du SPDS aussi, c'est une petite batterie électronique.
Moi c'est Nono la claquette, donc je fais des claquettes, des petites percus, du xylophone et je chante également en chœur.
Et moi c'est Baud Morane. Et je fais de la contrebasse, de la basse, des cascasses, et je chante en chœur aussi.
Votre groupe, il a un pitch un peu précis. Est-ce qu'il y a un de vous qui peut me le ressortir? Qu'est-ce que vous faites?
En gros, on reprend des tubes qu'on aime bien, des tubes anglophones principalement, qu'on traduit en français, ou qu'on adapte. Donc c'est un peu les morceaux qu'on pourrait dire un peu honteux à certains moments, mais que quand même qu'on a grandi avec et qu'au final on s'est bien attaché à ces morceaux et voilà. Et en plus nos versions sont vraiment excellentes et vraiment mieux que les originales.
D'ailleurs, très souvent, des gens qui écoutent à la radio certains des morceaux originaux qu'on reprend sont là. Qu'est-ce que c'est ce morceau des trash croûtes?
Cette reprise ratée.
En fait, on traduit, mais assez littérairement, pas tout littéralement. On joue parfois sur le littéral et ça devient drôle. Et on essaye de coller au texte, à ce que racontent les textes originaux. Mais nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on les croûtifie, quoi. Voilà. Ça, c'est le concept aussi.
On essaie de faire sonner aussi la langue française, en fait, sur les chansons, quoi, que ça sonne. Et finalement, on se rend compte que les tubes qui sont à la base anglophone, ben, ça pourrait très bien marcher. Enfin, d'ailleurs, ça fonctionne en français, avec notre langue française, quoi.
Ça fait combien de temps maintenant ?
Ça fait 72 ans. Mais officiellement, ça fait 14 ans.
15
ans.
On est dans l'année de nos 15 ans révolus en avril.
Yeah. Ouais. Et s'il y a un morceau parmi les vôtres qui serait un peu votre favori, votre préféré, un emblème, qui pourrait être écouté, genre juste après cette interview à la radio, ce serait lequel?
Mais il y a le côté souvent de la survivance, quoi. C'est l'empowerment, c'est aller, on devient plus forte, on se laisse pas aller dans nos travers, surtout dans les vieux schémas amoureux et tout.
Je vois ce que tu veux dire.
En fait, c'est pas nous qui... C'est les chansons qu'on traduit, hein, mais souvent ça parle comme ça de ça, hein, de...
Oui, parce que le spectacle qu'on va jouer là, concert, quoi, s'appelle Amour et démesure. Donc l'idée, c'est de présenter l'amour dans tous ses états et dans la démesure aussi, hein, évidemment, très trash croûte ça. Et donc tu évoques plus, enfin, par exemple, Je me maintiens, qui est à la base Elton John, I'm Still Standing, Et donc, qui est bien trash croûte dans sa traduction et dans son empowerment quand même aussi.
Bah du coup, on s'écoute ça. Merci à vous.
Merci aussi. Merci à toi. Bisous.
Tu ne pourras jamais savoir ce que ça fait. Ton sang froid comme l'hiver t'a congelé comme un steak. Il y a une lumière pâle qui brille au fond de Wet. Tu finiras comme l'épave que tu caches derrière ton masque hideux. Tu pensais que ma folie ne pouvait pas gagner. Eh bien regarde-moi, oui je reviens à nouveau. J'ai le goût de l'amour qui n'est pas compliqué. Si tu veux tout savoir, je reste en vie et toi tu disparais. Capte-le bien que je suis debout comme je n'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfante. Encore debout après tout ce temps, ramassant les morceaux de ma vie sans toi dans mon esprit. Je me maintiens, ouais, ouais, ouais. Je vais très bien, ouais, ouais, ouais. Je résiste, ouais, ouais, ouais. Je prouve que j'existe. Alors tu t'es cassé en me quittant encore. T'as dit des mots méchants pour me faire souffrir. Si notre amour était un cirque, le clown c'est toi et tu le resteras. Capte-le bien que je suis debout comme je ne l'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfant. Que je suis debout comme je n'ai jamais été. Comme une vraie survivante, je me sens comme une enfante. Encore debout après tout ce temps, ramassant les morceaux de ma vie sans toi dans mon esprit.
Non mais Gina, moi, tu te souviens quand même des beaux mots que les gens ils ont écrits, les habitants de Vialas et des environs et d'ailleurs, c'était tellement...
C'était beau, ils avaient trop envie, ils disaient que Vialas c'était beau et qu'ils aimaient les Cévennes et qu'ils aimaient chez nous et que chez nous on était trop bien et c'était très beau ça.
Et c'était aussi politique, il y avait des idées où, ben mine de rien, il fallait qu'on essaie de vivre au maximum tous ensemble, qu'on essaie de partager la rue, parce que la rue finalement elle était à tout le monde, et puis... Il y avait des messages poétiques aussi, il y a eu des citations de Victor Hugo.
De Victor Hugo et de Confucius. Victor Hugo, c'était trop beau. Ça disait que dans la vie, même qu'on soit jeune ou même qu'on soit vieux, eh ben, quand on avait connu la tempête de l'amour, on était vivant. Et ça, moi, ça m'a plu.
Il y avait aussi des mots qui remerciaient Vivre à Vialas pour organiser ce festival parce que c'est pas dans tous les villages qu'il y a de tels festivals tous les ans.
Oui, et il y a même des mots qui nous remerciaient nous et qui disaient qu'on était super. Alors moi ça m'a touché oui. Beaucoup, très fort, très très fort.
Alors moi j'ai pas beaucoup compris pourquoi ils ont dit que j'étais magique, parce que c'est vrai que si les gens de la radio ils voyaient à quoi je ressemblais, bah ils diraient que ce mec il est pas vraiment magique hein.
Oui. Oui, mais heureusement, comme c'est la radio, ils ont pas l'image.
Ah ben heureusement, Gina.
Et puis il y a aussi eu des trucs rigolos. Par exemple, moi j'ai dû mimer la loutre.
Ah oui, tu as mimé la loutre. Ah oui, et puis moi j'ai dû faire des pompes. Mais comme je suis pas du tout sportif, et ben j'ai fait comme ça, comme quand j'étais debout, et puis j'ai juste bougé les bras. Les gens ils ont cru.
T'as fait des air pompes, et même que ce soir t'as fait le ver luisant avec les fesses en soleil.
Ah oui, mais ça chute, faut pas dire parce que c'était un petit peu trop limite. Hein.
Ah oui, bah on le coupera au montage.
Ah oui, on coupera au montage. Et puis du coup. Bah toi, c'est qui c'est là-bas qui arrive là? Cache le micro.
Mais non, mais pourquoi tu prends le micro?
Cache le micro.
Vite, prends
mais
le
non,
micro.
Mais
non, c'est
mais
non, elle, monsieur, non, c'est
non,
notre
mais
micro.
God, c'est notre micro.
Non, c'est notre micro, monsieur.
C'est
non, mais,
notre
non,
micro
mais...
à nous. On
oh,
est en train de nous piquer
oh,
le micro.
Mais on n'arrache pas le micro des mains des gens.
Et on nous pique le micro.
Non, mais
on nous pique le micro.
Mais c'est des tarés, ceux-là.
Prends-moi mon micro.